en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'infrarouge permet d'observer les corps froids dans les galaxies. C'est la raison pour laquelle le satellite Herschel, lancé le 14 mai 2009 avec Planck par Ariane 5 et à travers ses trois instruments, utilise cette technologie pour percer le secret de la formation des étoiles et des galaxies. Au cours d'une conférence donnée au Bureau des Longitudes en janvier 2011, Laurent Vigreau, directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est également le responsable scientifique de l'instrument SPIR sur Herschel, nous détaille les résultats dont les images prêtent à rêver. Nous vous invitons à télécharger sur le site canalacademy.com le support visuel de la communication de Laurent Vigreau pour suivre au mieux ses explications. On l'écoute.
Je m'empresse de préciser que je n'ai pas fait ça tout seul et que, évidemment, c'est le travail de nombreuses équipes. Sur des projets comme ISO ou Herschel, ça se chiffre en centaines de personnes, rien que pour construire un seul instrument. Donc, quand vous imaginez l'ampleur des projets, avec tous les instruments qui sont montés sur ces satellites, plus le satellite lui-même, plus toutes les opérations, ça se chiffre plutôt en milliers de personnes. Et donc, c'est à ces gens-là qu'il faut rendre hommage. Lorsqu'on voit tous ces résultats. Donc je vais vous expliquer, enfin tenter de vous expliquer en quoi Herschel est en train d'apporter une révolution en ce qui concerne notre connaissance de la formation des étoiles et des galaxies. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que Herschel, comment ça fonctionne, et après je vous montrerai un certain nombre de résultats. L'image que vous avez ici, c'est plus un scoop, mais vous avez de la chance puisque l'embargo qu'il y avait sur cette image a été levé à midi. Donc c'est une image de la galaxie d'Andromède. La partie, c'est un disque que l'on voit donc en infrarouge à 250 microns. Et ce que vous voyez, c'est essentiellement les poussières qui sont dans le disque de cette galaxie. Et tous les points bleus, en fait, ce sont des sources vues en rayon X par un autre satellite de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle XMM. Et on s'aperçoit tout de suite que la distribution de ces objets dans les rayons X et dans l'infrarouge est complètement différente. J'y reviendrai plus tard. Alors, peut-être pour vous, je ne sais pas si tout le monde connaît exactement qui est William Herschel. C'était peut-être le premier astrophysicien. Il est allemand, mais en fait, il a fait toute sa carrière. C'était pas une carrière, parce qu'en fait, il se payait lui-même en Angleterre. C'est quelqu'un d'assez riche. Et il a construit le plus grand télescope de l'époque qu'on voit sur le fond de l'image. Et c'est lui qui a découvert l'infrarouge en faisant... Il voulait connaître quelle était la lumière la plus énergétique. On savait que le soleil, la lumière du soleil pouvait être séparée en rouge, vert, bleu, suivant les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il voulait savoir laquelle apportait le plus d'énergie. Donc il a imaginé de prendre un thermomètre et de balader le thermomètre dans un arc-en-ciel qu'il avait créé avec un prisme. Et à chaque fois, mesurant l'élévation de température du thermomètre. Et donc, il a pu déterminer comme ça que lorsqu'il allait du bleu vers le rouge, la température du thermomètre augmentait. Puis il a voulu faire un point de référence en dehors, au-delà du rouge, et il s'aperçut à sa grande surprise que la température continuait à augmenter. Donc après, il a fait plein d'analyses et de mesures d'optique sur cette lumière qu'il ne voyait pas. Il s'est aperçu qu'on pouvait la focaliser, qu'on pouvait la réfléchir, et que c'était une lumière exactement comme les autres, sauf qu'elle était invisible. C'est ce qui est devenu l'infrarouge. Alors je mentionne aussi que beaucoup de ces découvertes ont été faites en fait par sa sœur. On l'oublie de temps en temps lorsque... Alors l'infrarouge, ça sert à plusieurs choses. Les caractéristiques principales, c'est que ça permet de voir les objets qui sont froids et les objets qui sont enfouis. Donc on utilise, et je vais utiliser tout le temps dans la présentation, une échelle de degré qui est l'échelle de degré de la thermodynamique, c'est le degré Kelvin, dans lequel 0 degré, le 0 absolu, correspond à moins 273,15. Alors, j'ose pas ici, en face du bureau des longitudes, mettre toutes les décimales qui vont derrière, mais je pense que c'est à peu près correct. Et quand vous regardez dans l'infrarouge, vous allez regarder des corps, l'émission thermique, des corps qui sont à des températures très froides, entre quelques Kelvin et de l'ordre de la centaine de Kelvin, c'est-à-dire des objets qui font entre moins 270 degrés et jusqu'à moins 100 degrés. Donc, je vous rappelle que tout corps émet de la lumière par une émission dite de corps noir et que plus la température de ce corps est élevée, plus l'intensité totale de lumière émise est importante et plus le pic de cette émission se déplace vers le bleu. Donc un corps froid va émettre essentiellement dans l'infrarouge lointain, vers 100, 200, 300 microns. Un corps chaud, vous, à température ambiante, vous émettez principalement vers 10 microns. Le soleil, à 6000 degrés, émet plutôt dans le très proche infrarouge, c'est juste au-dessus du rouge, vers 0,8 microns, et des gaz qui sont à plusieurs millions de degrés émettent dans les rayons X. Donc c'est une caractéristique de toutes ces émissions. Et ce que l'on regarde donc dans l'infrarouge, ce sont vraiment les corps froids que l'on trouve dans les galaxies et dans l'univers en général. L'autre caractéristique importante, c'est que l'infrarouge permet de traverser des nuages. Bon, c'est une propriété qui est bien connue des militaires. Dans l'infrarouge, vous pouvez aller regarder des objets qui sont cachés par du brouillard. Et quand vous allez dans le domaine infrarouge lointain, vous pouvez même regarder à travers des murs qui ne sont pas trop épais ni trop métalliques. Alors c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut... Ça, c'est une image à 10 microns de quelqu'un qui essaye de dissimuler une bouteille dans un sac en papier. Et si vous aviez des yeux infrarouges, bon, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas une bonne stratégie. Alors, pour aller voir quelque chose dans l'infrarouge, quand on veut observer des objets dans l'infrarouge, en particulier des objets astronomiques, il faut déjà se placer en dehors de l'atmosphère, puisque l'atmosphère bloque les rayonnements infrarouges. Bon, c'est l'effet de serre. Quand l'atmosphère bloque les rayonnements infrarouges émis par la Terre, mais inversement, il les bloque aussi les infrarouges qui viennent de l'espace. Donc, il faut pouvoir aller les observer dans les satellites. L'autre condition, c'est qu'il faut tout refroidir à bord de votre satellite, puisque, suivant ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, vous avez un télescope chaud, il va émettre de la lumière qui va se superposer à la lumière que vous recevez des astres. Et donc, en fait, votre télescope, non seulement sert à focaliser la lumière, mais c'est lui-même une source de lumière. Et s'il est trop chaud, c'est votre télescope qui vous aveugle complètement. Donc, il faut tout refroidir, les télescopes et les instruments. Et quand on dit refroidir, c'est de refroidir à des températures, encore une fois, compatibles avec ce que l'on veut observer, donc des températures voisines de moins de 100 degrés, voire encore plus froid pour les instruments, qui sont, dans le cas d'Herschel, sont refroidis à des températures de l'ordre de 4 Kelvin, donc moins de 169 degrés. Et les instruments, le détecteur eux-mêmes, sont encore plus froids, puisqu'ils sont à des températures en dessous du Kelvin. Les détecteurs de Herschel sont à des températures de 300 millikelvin. Ils sont encore un peu plus chauds que les détecteurs de Planck, qui sont eux à 100 millikelvin, et qui sont pour l'instant les objets les plus froids de l'univers. Alors, comme Herschel a fonctionné un tout petit peu avant Herschel, on a gagné pendant 3 mois, on a été l'objet le plus froid de l'univers, mais bon, on s'y est fait. Il ne peut être que le second. Donc en fait, c'est l'aboutissement d'une longue lignée de satellites qui a commencé en 1983 avec un satellite qui s'appelait IRAS. C'est un satellite américain avec des participations du Royaume-Uni et des Pays-Bas, qui a fait la première relevée complète du ciel dans les domaines infrarouges entre 10 et 100 microns. Ça a été suivi 12 ans après par le satellite ISO, qui est un satellite européen de l'Agence spatiale européenne. Il lui permettait de pointer des objets, contrairement à IRAS qui simplement faisait un scan complet sur le ciel. Et donc a permis de complètement consolider et de mieux comprendre les objets qu'on avait été découverts avec IRAS. ISO était suivi par un satellite américain qui s'appelait Spitzer, qui a un télescope un tout petit peu plus gros que ISO et qui avait évidemment des instruments plus performants puisqu'il s'était écoulé 7 ans entre les deux. Mais dont le domaine de longueur d'onde était très similaire à celui d'ISO, ce qui fait que Spitzer et ISO ont grosso modo regardé les mêmes objets et ont permis de faire le même type de science. Et vous verrez par la suite que c'est tout de même extrêmement important d'aller à des longueurs d'onde plus grandes pour voir des objets encore plus froids. Et ça, c'est ce qu'a fait et est en train de faire Herschel, donc qui a été lancé en 2009, et qui là est un télescope gigantesque, puisque c'est un télescope de 3,50 m. Fonctionne en mode pointé, c'est-à-dire qu'on observe des objets particuliers dans le ciel et qui fonctionne entre 60 et 600 microns, donc ouvrant une nouvelle fenêtre complète sur l'univers par rapport à ce qui avait été fait par les satellites précédents. Herschel est un, j'ai déjà dit, c'est un très gros télescope, 3,50 m, c'est aussi un très gros satellite. Donc vous avez les caractéristiques ici. Donc c'est, au lancement, il fait plus de 3 tonnes. Il fait presque 10 mètres de haut. Le télescope est refroidi à des températures de l'ordre de, ici indiqué 90 Kelvin, mais en fait il est à 80 en vol. Il y a beaucoup de puissance pour un satellite, c'est 1,5 kW. Ce qui apparaît pas beaucoup, enfin, c'est par rapport à un four à micro-ondes, c'est pas grand-chose, mais pour un satellite, c'est pas mal. Alors, pour vous donner une idée de la taille du télescope, vous avez ici quelqu'un en train d'inspecter s'il n'y a pas des défauts. Et vous voyez la taille. Alors, vous avez ici donc le miroir principal de 3,50 m, le miroir secondaire qui est porté par une structure métallique, et puis ici, donc, qui refocalise la lumière derrière le miroir primaire, c'est une configuration assez classique. Les instruments sont évidemment au foyer de l'instrument. Alors, tout l'ensemble, j'ai dit que c'était métallique, c'est pas tout à fait exact, c'est du carbure de silicium, c'est un matériau, c'est la première fois qu'on fait un grand télescope en carbure de silicium, ça a été fait par la société Astrium à Toulouse, et ça permet d'avoir un matériau qui peut être poli, et qui est extrêmement léger, puisque si on avait fait le même télescope en verre, le poids aurait été à peu près multiplié par 10. Le satellite Herschel a été lancé et est dans une orbite autour d'un point qui s'appelle le point de Lagrange, le deuxième point de Lagrange, qui est un point pour lequel l'attraction de la Terre est égale à l'attraction du Soleil. Alors, c'est pas un point stable. Si vous mettez un point ici, évidemment, il va immédiatement tomber vers la Terre. Par contre, on peut avoir des orbites stables dans un plan perpendiculaire à l'axe Terre-Soleil et passant par le point L2. Donc Herschel est sur une orbite circulaire dans ce plan. Et Planck, dont vous avez peut-être entendu parler, est sur une orbite du même type, mais beaucoup plus proche du point L2 que Herschel. Herschel a 3 instruments principaux. 2 instruments qui sont très complémentaires, qui s'appellent PAX et SPIRE, qui sont des instruments qui permettent de faire de l'imagerie dans 6 canaux, donc 6 bandes de longueur d'onde, 6 bandes de fréquence, 3 pour PAX et 3 pour SPIRE. Et les 2 instruments PAX et SPIRE permettent aussi de faire de la spectroscopie pour faire l'analyse de la composition des objets que l'on observe. Alors, ce sont de la spectroscopie, ce qu'on appelle à basse et moyenne résolution, c'est-à-dire que on obtient une résolution spectrale de l'ordre du 1 pour 1000. Le troisième instrument s'appelle Hi-Fi. Alors, lui, c'est au contraire, c'est un pur instrument de spectroscopie et qui, lui, travaille avec une résolution spectrale de 1 pour 1 million. Donc, c'est-à-dire que vous avez une finesse d'analyse beaucoup plus fine avec Hi-Fi. Évidemment, vous avez un prix à payer, qui est que vous avez beaucoup moins de sensibilité puisque vous regardez une toute petite partie du spectre, donc vous avez beaucoup moins de photons disponibles pour vos détecteurs. Et les 3 instruments donc couvrent l'ensemble du domaine allant de 60 à 600 microns. Là, vous avez ici une image du montage des 3 instruments dans le plan focal. Alors, vous avez, les instruments sont portés ici par une plateforme qui est refroidi par des tuyaux dans lesquels coule de l'hélium liquide superfluide. Et l'hélium, il y a un réservoir d'hélium en dessous qui permet de refroidir ces 3 instruments. Donc vous avez ici l'instrument SPIRE, vous avez ici l'instrument PAX, et là vous avez l'instrument Hi-Fi. Alors si ceci fonctionne, vous avez ici à peu près la structure du satellite, la plateforme, avec le montage des 3 instruments. Donc après, on va installer la plateforme sur le couvercle du cryostat qui comprend l'hélium liquide. Vous avez ici toutes les tuyauteries qui permettent d'alimenter et les tuyaux qui vont refroidir les instruments. Le tout après est mis dans des enveloppes qui servent d'écran thermique. Ils sont eux-mêmes refroidis par le gaz qui continue à circuler. Après avoir refroidi les instruments, il sert à refroidir les écrans. Vous avez ici donc la paroi extérieure. Vous avez le télescope qui est monté au sommet du cryostat. Le satellite avec les plateformes, les électroniques. Un écran qui permet de protéger thermiquement le satellite qui a une température de 0 degré, éviter des couplages thermiques avec le cryostat au-dessus. et puis le panneau solaire et l'écran permettant de protéger le télescope de l'éclat du soleil. Évidemment, quand vous avez des grands télescopes, il faut protéger le télescope pour éviter d'avoir de la lumière parasite venant du soleil. Donc l'assemblage, pour vous donner une idée, l'assemblage de ce ensemble a pris 18 mois. Si vous prenez toutes les pièces détachées pour le finir, c'est... Là, vous avez une idée à peu près de la taille de ce satellite. Donc ça, c'est dans une salle d'intégration à l'ESTEC, dans le centre technique de l'ESA, qui est en Hollande. Donc vous avez le montage ici du satellite Herschel dans la coiffe de Ariane 5 qui est servi au lancement. En dessous, dans la partie noire qu'on ne voit plus, se trouve le satellite Planck. Et donc il y a cette pièce métallique qui permet d'aller visser Herschel au-dessus de Planck pour un lancement commun. Donc ici, il y avait la coiffe d'Ariane 5 qui était mise sur l'ensemble des deux satellites. Ici, donc, cette opération se passait dans ce hall de montage. Et après, la fusée Ariane 5 est emmenée par ce chariot qui roule sur des voies ferrées jusqu'au pas de tir. Et donc là, vous avez une séquence qui vous montre le lancement. Alors, quand vous avez passé 10 ans de votre vie à construire un instrument, que vous voyez ça au-dessus d'un énorme pétard, on se demande un peu si on a gâché sa vie ou pas. Mais en fait, là, ça s'est bien passé. Mais c'est toujours assez spectaculaire quand on voit ça. Ça, c'est le bruit qu'on entend quand on est à 10 km. C'est là où sont les spectateurs. C'était la vision qu'on avait. C'est assez amusant parce qu'au départ, comme on était à 7 km du pas de tir, pendant les 30 premières secondes, on n'entend rien. La fusée part et puis après, il y a le bruit qui vous arrive. Et là, ça fait un choc physique. Alors le lancement a été particulièrement remarquable, bien que ce soit un lancement tout à fait particulier pour Ariane 5, puisque pratiquement c'était à la virgule près les paramètres d'orbite nominaux qui avaient été, vous voyez, le périgée c'était 270 km atteint pour 270 visés, l'apogée c'était aussi très très bon et l'inclinaison c'était 5 degrés 99 au lieu de 6 degrés. C'était un des lancements les plus réussis d'Ariane 5. Donc on s'est senti beaucoup mieux après. Donc le lancement a eu lieu le 14 mai 2009. S'en est suivi un certain nombre de phases en permettant de vérifier le fonctionnement du satellite, des instruments. Donc il a duré à peu près 5 mois. S'est suivi une phase de démonstration des performances de 1 mois. Pour obtenir un certain nombre d'observations qui puissent être distribuées à la communauté astronomique, qui se fasse une idée de ce que l'on pouvait réellement faire avec Herschel. Il y a souvent eu dans le passé des satellites pour lesquels on a eu des surprises entre ce qui était annoncé avant le lancement et ce qui était effectivement réalisé en vol. Alors, en général, c'est plutôt dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est moins bon que... Il y a eu quelques cas où c'était meilleur. Je dirais pour l'instant, Herschel, au point où on en est, c'est nominal. On est ni un petit peu meilleur que ce qu'on avait prévu, mais pas beaucoup. Et donc la phase d'observation scientifique a commencé il y a un peu plus d'un an, novembre 2009. Alors juste pour vous montrer, ici, ça c'est ce qui s'est passé au point de vue de la température. Donc vous avez ici la date du lancement, et ici c'est fin juillet. Vous voyez par exemple, la température du télescope a diminué. Pendant un moment, on l'a laissé à température constante pour être sûr qu'il dégaze complètement et qu'il reste plus chaud et qu'il ne piège pas toutes les particules et les gaz qui sont dégagés par le satellite. Et ça, vous avez ici la température du satellite. Donc, vous voyez, grosso modo, au bout de 2 mois, on était dans des conditions nominales. Et c'est là où on a pu commencer à faire toutes les phases de vérification des performances et des instruments. Un des gros points difficiles dans Herschel, comme dans tous ces satellites, c'est que la durée de vie est limitée par la quantité d'hélium liquide que vous emportez. Donc l'ESA avait fait une mesure de consommation pour vérifier la durée de vie. Donc vous avez ici le modèle, en fonction du temps. Donc ici, c'est dans des unités, c'est des températures au niveau du cryostat. Ici, la mesure qui a été faite, et une extrapolation sauvage avec un modèle qui permet de mesurer, de prédire une durée de vie qui était la durée de vie nominale, et donc une durée de vie permettant de faire des observations jusqu'à la fin 2012. Alors depuis, on a refait une deuxième mesure, mais qui ne change pas le résultat. Donc on a encore 2 ans d'observation avec Herschel. Donc je vais vous parler un peu maintenant de ce que l'on peut faire avec Herschel en ce qui concerne l'évolution des galaxies, qui est liée à ce que l'on observe dans le milieu interstellaire et avec la formation d'étoiles. Alors pour vous fixer un ordre, une idée, ce qu'est une galaxie, c'est un objet compliqué. D'abord, ce que les gens connaissent le plus, ce sont les étoiles. Une galaxie, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Pour les galaxies comme la nôtre, la Voie lactée, les plus grosses font plusieurs milliers de milliards d'étoiles. Les plus petites font plusieurs, disons, dizaines ou centaines de millions d'étoiles. Donc, ça couvre un assez grand spectre. Et ces galaxies ne sont pas des objets figés, ce sont des objets qui évoluent, dans lesquels au départ vous avez principalement du gaz. Ce gaz se condense, forme des étoiles. Ces étoiles elles-mêmes évoluent. Pour les plus massives d'entre elles, elles explosent, donc le gaz retourne au milieu interstellaire. Donc vous avez un cycle continu de transformation du gaz d'une galaxie en étoile, et après donc de remélange des éjectats et d'enrichissement du milieu intergalactique. Et c'est donc vous avez des galaxies dans lesquelles vous avez encore plein de gaz, qui sont toutes les galaxies spirales, qui sont peut-être les plus spectaculaires, les plus connues du grand public, jusqu'à des galaxies dans lesquelles il n'y a plus du tout de gaz, qui ont complètement épuisé leur possibilité de former de nouvelles étoiles, et qui sont en général des galaxies qui ont une forme très régulière, c'est pour ça qu'on les appelle les galaxies elliptiques. Et donc la clé, si on veut comprendre l'évolution des galaxies, c'est vraiment de comprendre comment tout ce cycle fonctionne et surtout comment on forme les étoiles à partir du gaz qui se trouve dans les galaxies. Alors ça, c'est une image de la Voie lactée, c'est une image de la constellation d'Orion. C'est ce que vous voyez à l'œil nu. Donc là, vous ne voyez a priori que des étoiles, sauf pour si vous avez eu des jumelles, vous êtes allé regarder cet objet-là qui s'appelle la nébuleuse d'Orion. Même avec des jumelles, on voit que c'est un objet étendu. Et en fait, c'est un nuage, ce qu'on appelle un nuage moléculaire. C'est une région où le gaz est extrêmement dense et justement permet de former des nouvelles étoiles. Donc entre toutes les étoiles qu'on voit là, il y a du gaz, il y a des molécules, il y a du gaz neutre, il y a du gaz ionisé, il y a de la poussière. C'est de la poussière sous forme, c'est des silicates, c'est des petits grains de silicates, c'est des grains de matière carbonée. Différentes carbones amorphes principalement, ou des graphites. Et tous ces gaz émettent en infrarouge. Et évidemment, les poussières sont froides et émettent aussi en infrarouge. Donc si vous avez des yeux infrarouges, voilà ce que vous verriez. Parce que personnellement, je trouve que c'est même plus joli que les étoiles, mais je suis un peu biaisé. Alors toutes les grandes structures que vous voyez, en fait, ce sont la structure du milieu interstellaire. C'est l'émission des poussières. Et vous avez ici la nébuleuse d'Orion qui est extrêmement visible. C'est l'objet le plus brillant en infrarouge, puisque vous avez des poussières qui sont très chaudes à cause des étoiles qui sont en train de se former et qui chauffent les poussières de la nébuleuse. Alors, si vous regardez maintenant la composition de ces nébuleuses, vous avez ici un spectre qui est obtenu avec Hi-Fi de la nébuleuse d'Orion. Et vous voyez l'ensemble de toutes les molécules, et encore, toutes n'ont pas été identifiées. Il y en a une qui a été censurée, qui est l'éthanol. On a mis du méthanol, mais les plus grandes réserves d'alcool, d'hydrocarbures, se trouvent dans la galaxie sous forme de molécules dans le milieu interstellaire. Alors, ce n'est pas très facile comme mine, parce que la densité est faible, mais c'est des quantités qui sont phénoménales. Et donc, il y a une très, très grande richesse de molécules dans toutes ces régions, en particulier le monoxyde de carbone et la vapeur d'eau qui sont les plus abondantes. Alors ce milieu interstellaire, tel qu'on le voit en infrarouge, est extrêmement compliqué. Il a des structures avec des tas de filaments, et c'est ce que pour les mathématiciens s'appelle des structures fractales, c'est-à-dire que vous avez la structure à toutes les échelles. Donc vous avez ici une carte pour montrer aussi le gain entre ce qui a été fait avec le premier satellite IRAS, donc cette petite région-là maintenant, quand on la voit avec Herschel. Donc on voit encore beaucoup plus, évidemment, les détails. On a un beaucoup plus grand télescope, donc on fait des meilleures images. Et même quand on regarde à plus grande échelle, on continue toujours à voir de la structure. C'est un peu comme si vous regardez les gros nuages dans l'atmosphère, les cumulus, il y a toujours de la structure dans ces structures. Et c'est à partir de ces nuages que l'on forme les nouvelles générations d'étoiles. Alors, les théories classiques de formation d'étoiles, on savait que les étoiles se formaient dans ces nuages moléculaires. On ne savait pas trop comment, donc les gens avaient imaginé des systèmes relativement simples dans lesquels, à cause de phénomènes comme la turbulence ou le champ magnétique, on créait en fait des espèces de cœurs un peu plus denses qui, finalement, par la force de la gravitation, étaient capables d'aller accréter du gaz à l'extérieur de ce cœur, puis le faire grossir, jusqu'au moment où le cœur devenait autogravitant et s'effondrait sur lui-même pour former une étoile. Et puis on pensait que ces objets-là se formaient un peu au hasard dans le nuage, sans qu'on ait vraiment une idée très précise de comment ni pourquoi. Alors avec Herschel, pour la première fois, on est capable vraiment de savoir comment ça se passe. Et là, on a eu beaucoup de surprises. Alors pourquoi est-ce qu'on voit évidemment le gaz du nuage? On peut, grâce à tous les instruments dont on dispose à bord de Herschel, en déduire des cartes de température. C'est ce qui est ici à gauche, c'est la même région que l'image d'avant. Et vous voyez, dans ce cas-là, on a une région qui est un petit peu plus chaude autour de cet objet-là. Il y a des objets plus formés. Et autrement, c'est relativement homogène. Et on peut regarder aussi des cartes de densité. Et là, c'est complètement différent. On voit des filaments. Donc la structure de ces nuages, même quand ils sont très denses, restent filamentaires avec des contrastes assez importants entre les filaments et le reste du nuage. Alors là, c'est simplement pour vous montrer que par des traitements mathématiques, on peut mettre mieux en évidence les filaments. Et quand on regarde où se forment les étoiles, vous avez ici les points bleus correspondent à des étoiles des cœurs qui vont vraiment devenir des étoiles, qui sont suffisamment denses pour former des étoiles. Les points verts correspondent à des cœurs qui ne sont pas suffisamment denses pour former un jour des étoiles. Ils vont rester sous forme de cœurs froids, sans devenir des étoiles. Et bon, même comme ça, on voit très bien qu'ils sont déjà sur les filaments. Et quand on augmente le contraste, on voit que les étoiles ne se forment que dans ces filaments. Et ça, c'est complètement nouveau, c'est complètement inattendu. Et c'est assez contraire à ce que les gens avaient imaginé. Et on s'aperçoit aussi que les cœurs qui vont former des étoiles sont dans les filaments les plus denses. Donc il y a une relation directe entre les caractéristiques des filaments et les caractéristiques des proto-étoiles ou des cœurs froids qui se forment. Et quelque chose aussi qui est nouveau, c'est que le long d'un filament, il n'y a pas d'effet d'âge. C'est-à-dire que toutes les étoiles qui sont dans un filament se forment en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez contraire à ce que les gens avaient prévu, où on s'imaginait que bon, il y avait une première étoile, ça générait des perturbations, puis ça en fabriquait une autre à côté, etc. Là, c'est pas le cas. Ce qui se forme, c'est un filament, et ce filament, le contraste de densité augmente avec le reste du nuage, et quand il arrive à une certaine densité critique, à ce moment-là, tout se fragmente et se condense en cœurs qui vont eux-mêmes après donner des étoiles. Alors, un autre avantage de Herschel, c'est qu'évidemment, comme on va à très grande longueur d'onde, on est aussi capable d'aller regarder des objets très froids et très enfouis à l'intérieur des nuages. Et pour vous montrer, même ici, vous avez une image donc prise par le satellite Spitzer à 24 microns, donc c'est déjà dans l'infrarouge qu'on appelle moyen. Et au centre du nuage, vous voyez que c'est déjà sombre parce que la lumière ne sort pas, c'est froid, et il n'y a rien qui peut sortir de ça. Quand vous regardez à 70 microns ou à 100 microns ou à 160 microns, vous voyez la proto-étoile qui se trouve enfouie et qui est encore très froide et qui évidemment ne peut pas être observée à d'autres longueurs d'onde que les longueurs d'onde auxquelles Herschel a accès. Venir à Herschel vraiment ouvre une nouvelle voie sur pour comprendre la formation des étoiles. Et maintenant, avec Herschel, on est capable de voir toutes les étapes de la formation d'étoiles dès le découplage avec le milieu interstellaire. Ceci est un autre exemple où vous avez là, couvrant un plus grand domaine de longueur d'onde, donc vous avez ici un nuage moléculaire mais vu dans le visible, donc là on ne voit rien, c'est complètement opaque, ça bloque toute la lumière émise par les étoiles derrière. Et puis quand vous regardez dans l'infrarouge proche, vous voyez ici un deuxième, un premier objet apparaître, qui est en fait une étoile qu'on appelle une étoile classe 0, en fait une étoile déjà formée. Et à côté, ça reste toujours sombre, il n'y a rien. Et si vous allez maintenant dans les vraiment l'infrarouge lointain avec l'instrument SPIRE, ben vous voyez un deuxième objet ici, qui est en fait une deuxième proto-étoile, mais cette fois-ci encore plus en formation, c'est encore toujours à l'état de cœur froid et pas d'étoile. Et là, on peut la voir simplement dans ces domaines de longueur d'onde. Autrement, avec Spitzer et ISO, on était limité à ça. Donc on ne voyait pas le deuxième objet. Donc c'est vraiment Herschel qui permet de faire ces avancées. Alors, pour montrer un autre exemple de formation d'étoiles dans un environnement un peu différent, vous avez ici une nébuleuse qui est très connue, qui s'appelle la nébuleuse de la Rosette, dans laquelle il y a déjà eu une première génération d'étoiles ici. Ce sont des étoiles complètement évoluées, normales, qui sont très chaudes et qui ionisent le gaz autour. C'est pour ça que vous avez cette émission rouge due à l'hydrogène ionisé. Et donc, il y a toute une nébuleuse de gaz et de poussière autour de cet amas d'étoiles. Et évidemment, toute cette nébuleuse est chauffée par l'amas d'étoiles centrale. Quand vous regardez dans l'infrarouge lointain, là, vous voyez apparaître toutes les émissions de poussière. Donc, l'amas d'étoiles est ici. Donc, il y a une espèce de cavité, puisque toute la poussière a été, et le gaz a été repoussé par la pression de radiation due aux étoiles chaudes qui sont de la première génération. Et vont comprimer le gaz ici, et ça déclenche après une nouvelle génération de formes d'étoiles. C'est ce qu'on voit sur ces images avec Herschel. Donc là, vous avez couvrant tout le domaine de Herschel, de 70 microns jusqu'à 500 microns. Et là aussi, vous voyez qu'à 70 microns, on ne voit pas tellement d'étoiles jeunes, alors qu'à 500 microns, vous voyez toutes ces proto-étoiles qui sont en train de se former dans ce grand filament. Donc là aussi, on retrouve cette formation dans des filaments. Mais contrairement à ce qui était avant, là, on peut regarder, si vous regardez les cartes en température, vous voyez qu'il y a un gradient par rapport à... Elle est tournée de 90 degrés par rapport à l'image précédente, ce qui n'est pas très pratique. Mais donc le filament, vous le retrouvez ici, le grand filament, et il est là, et vous voyez qu'il y a un gradient de température. Et en fait, quand on regarde, on voit aussi qu'il y a un gradient de densité. Donc ça, c'est la même image, mais je l'ai remontré parce que c'est tout de même joli. Et alors, dans ces conditions-là, on forme des objets qui sont assez différents que les objets que l'on forme dans les régions plus calmes, comme celles que je vous ai montrées au début. Enfin, on peut former des objets beaucoup plus massifs parce qu'en fait, on arrive à comprimer les filaments de manière plus importante. Et là, vous voyez, on arrive à des objets qui peuvent faire... Ce sont les objets qui sont dans cette nébuleuse sont ceux-là, là, en vert. On arrive à former des proto-étoiles qui font une centaine de fois la masse du Soleil et qui ont des tailles qui font, à ce niveau de leur évolution, déjà des tailles importantes qui sont de l'ordre de l'année-lumière. Alors que les objets qu'on forme dans les régions calmes sont plutôt des objets du style du Soleil. Alors, je vais revenir maintenant aux galaxies, puisque bon, on commence maintenant à comprendre comment se forment les étoiles. Et maintenant, il faut voir comment ce que l'on peut apprendre sur les galaxies. Alors, Herschel a deux intérêts par rapport aux autres, dont un extrêmement important, qui est de donner une résolution spatiale beaucoup plus importante sur les objets. Puisqu'on regarde, on a une résolution maintenant qui est de l'ordre de quelques secondes d'arc, alors qu'avant, on était plutôt au niveau de la minute d'arc. Et donc, évidemment, ça permet de faire des études détaillées dans une galaxie. Comme je l'ai dit, une galaxie, c'est un objet complexe. Quand vous n'êtes pas capable de faire une image de ça, mais vous voyez un point, ben vous avez un peu de mal à comprendre quels sont les différents mécanismes en jeu. Vous voyez, ça, c'est une image qui a été faite avec Herschel, avec un codage en couleur. Les points les plus bleus sont sur les objets les parties les plus brillantes à 70 microns. Et les parties rouges sont les parties les plus brillantes à 500 microns. Donc vous voyez des différences importantes de spectre d'émission dans une galaxie. Et si vous n'avez pas la résolution spatiale, évidemment, vous n'êtes pas capable de faire l'analyse détaillée de ce qui se passe dans toutes ces différentes régions. Vous n'avez plus qu'un point. J'y reviendrai après. Donc vous avez ici, donc c'est la même image que celle de tout à l'heure. On va montrer la différence qu'il y a entre une image d'une galaxie faite dans le visible. Donc vous voyez essentiellement les étoiles qui sont dans cette partie qu'on appelle le bulbe de la galaxie et puis le disque. Et puis ici vous l'avez donc en infrarouge et vous voyez essentiellement le disque dans lequel il y a le gaz et la poussière. Dans le bulbe il n'y a quasiment plus de gaz, il n'y a plus que des vieilles étoiles. qui n'émettent pas dans l'infrarouge. Et donc, on voit bien qu'il y a un lien entre les étoiles qui sont formées dans le disque et la propriété du milieu interstellaire. Et ça, ça peut se traduire, si on regarde un spectre d'émission, sur une densité, ce qu'on appelle la densité spectrale d'énergie d'une galaxie. Donc ici, vous avez la longueur d'onde, allant de 0,1 micron à 1 mm. Donc vous avez la partie qui est dans l'ultraviolet et le visible, qui est entièrement dominée par les étoiles. Ce sont des objets comme le Soleil, ou plus brillants, ou plus faibles que le Soleil, mais donc ce sont des objets qui émettent essentiellement dans l'ultraviolet et dans le visible. La lumière qui est émise par les étoiles, elle sort de la galaxie, sinon on la verrait pas, mais elle est aussi absorbée à l'intérieur de la galaxie par le gaz et les poussières qui sont dans la galaxie. Et donc cette lumière des étoiles sert à chauffer et à exciter le gaz interstellaire et à chauffer les poussières qui, eux, remettent dans l'infrarouge. Donc c'est ça qui domine l'émission que vous voyez ici dans l'infrarouge, depuis l'infrarouge moyen jusqu'à l'infrarouge lointain, qui est de l'émission des poussières, principalement dominée par l'émission des poussières, qui en fait sont chauffées par les étoiles qui sont dans la galaxie. Donc vous avez un transfert d'énergie entre les étoiles, le milieu interstellaire, qui se traduit aussi par un transfert, une dégradation de la radiation entre des rayonnements UV et visibles pour générer une émission dans l'infrarouge. Et maintenant, on a à notre disposition des satellites permettant de couvrir l'ensemble de ces émissions allant de l'ultraviolet avec le Hubble Space Telescope, qui est sans doute le plus connu, mais aussi des satellites comme Galex, ces observations qu'on peut aussi faire du sol en partie, et puis les satellites comme Spitzer, qui a surtout donné accès à cette région de l'infrarouge moyen, et maintenant Herschel, qui permet d'avoir l'émission des objets les plus froids. Et vous voyez, on comprend bien pourquoi Herschel était important, parce que si on n'avait pas la partie infrarouge lointain, on perdait une grande partie de l'énergie, enfin du spectre de ces galaxies. Et il faut savoir que dans la majorité des galaxies, même comme la nôtre, il y a autant d'énergie dans l'infrarouge lointain que dans le visible. C'est-à-dire que le processus de dégradation de l'énergie marche extrêmement bien. Et je vous montrerai des exemples. On connaît depuis IRAS des objets dont la partie visible est complètement absorbée, on ne les voit même plus dans le visible, tout est réémis dans l'infrarouge. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement efficace, et sans l'accès à des mesures précises d'émissions en infrarouge lointain, on perd une grande partie de l'énergie totale d'une galaxie. Et donc tous les modèles qu'on fait sont faux, parce qu'on ne sait pas exactement quel est le bilan énergétique à l'intérieur d'une galaxie. Donc, je vais revenir sur l'autre aspect qui est donc la résolution spatiale. Donc, vous avez ici une galaxie un peu moins jolie qu'une galaxie spirale, mais qui est tout de même intéressante parce qu'elle a des tas de régions de formation d'étoiles, comme celle que je montrais dans une galaxie, dans Orion ou dans la Rosette. Et donc, ici, vous avez une image Spitzer à 24 microns. L'image Spitzer à 70 et à 160 microns, c'est une espèce de patate dont on ne peut rien faire. Donc vous avez ici l'image. Et avec Herschel, ce que l'on peut faire, on a la résolution spatiale maintenant pour pouvoir étudier toutes ces régions individuelles et faire des mesures, des bilans énergétiques complets de toutes ces régions. Et évidemment, après, en faire des analyses. Par exemple, une des surprises que l'on a eues, c'était que ces objets sont plutôt moins brillants en infrarouge à 170 et 100 microns que ce que l'on avait calculé avec des modèles à partir de ce que l'on mesurait de l'émission en infrarouge moyen et dans le visible. Donc, vous avez ici ce que prévoyait le modèle, et voilà tous les points que l'on a observés avec Herschel. Donc là aussi, ça veut dire que tous les bilans qui avaient été faits, tous les modèles de transferts qui avaient été faits avant sont erronés. C'est bien, parce que comme ça, on a encore du travail à faire. Alors, aussi, des choses qu'on peut faire avec Herschel qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est d'aller regarder vraiment des objets très, très froids dans les galaxies. Donc, ici, vous avez une image d'un groupe de galaxies qui sont en interaction, qui sont dans l'amas de la Vierge, un amas de galaxies assez proche. Là, ici, vous avez une très grosse galaxie elliptique. trois galaxies en interaction, qui sont assez compliquées. Et si vous avez des bons yeux, je ne suis pas sûr que là... Vous voyez très très faiblement une espèce d'extension ici, très peu lumineuse, qui sont en fait du gaz et des poussières qui sont éjectées par des effets de marée, qui sont très analogues aux marées terrestres entre la Terre et la Lune, et qui en fait permettent d'éjecter de la matière de ces galaxies, enfin des galaxies en interaction. Si vous regardez maintenant à 250 microns, vous voyez que la grosse galaxie elliptique qui dominait complètement, on ne la voit plus, puisqu'il n'y a quasiment pas de gaz dedans, donc il n'y a pas d'émission infrarouge. Vous voyez l'émission de cette extension, parce que c'est du gaz froid, c'est rempli de gaz froid et de poussière qu'on voit bien en infrarouge, alors qu'évidemment, on ne le voyait pas dans le visible. Et puis, vous voyez les deux noyaux des deux galaxies en interaction, qui permettent aussi de voir que là, dans cette configuration-là, on a généré des effets de formation d'étoiles intenses, à cause justement de l'interaction, de la compression du gaz des deux galaxies dans les phénomènes de collision. Donc ça permet, disons, l'infrarouge permet d'avoir accès à des informations complémentaires de ce que l'on fait dans le visible, en particulier pour aller localiser les régions de formation d'étoiles les plus importantes. Un autre système qui est bien connu des astronomes, qui est un système de la galaxie Messier 81, en fait, avec trois galaxies qui sont en interaction. Donc la grosse galaxie spirale, une petite galaxie irrégulière qui s'appelle Messier 82, et puis une troisième galaxie, GC 3077, qui est en interaction avec les deux autres. Et quand vous regardez en radio, en gaz centimétrique, c'est-à-dire dans le ray de l'hydrogène, vous voyez des bras de gaz qui vont dans toutes ces galaxies. Messier 81, donc, quand vous le regardez avec Herschel, vous trouvez une image un peu similaire à celle que vous avez vue sur les exemples que j'ai montrés précédemment. Comme je vous ai expliqué, on peut faire des cartes de couleurs, donc des cartes de température. Et une des choses qui était frappante dans Messier 81, c'est que la carte de température qui est ici ne présente qu'une variation centre-bord, alors que la carte de densité suit les bras spiraux de la galaxie. Je vais vous en montrer la galaxie au départ, vous voyez. Il y a des bras spiraux, une sorte d'anneau, puis quelque chose qui est assez diffus derrière. Et donc la carte de température reproduit en fait la carte des vieilles étoiles, tandis que la carte de densité reproduit exactement la structure spirale de la galaxie. Et tout le monde s'attendait à ce que les poussières soient plus chaudes aussi dans les bras, puisqu'on trouve plus d'étoiles massives et chaudes, capables de chauffer la poussière à des températures supérieures à celles qui sont en dehors des bras. Enfin, ça, c'était au moins ce que les modèles prédisaient. Et donc, c'est complètement faux. Les poussières sont principalement dominées par la grande quantité d'étoiles distribuées de manière uniforme dans la galaxie et pas par celle qui est dans les bras spiraux. Alors, heureusement, on a des contre-exemples, comme cette galaxie-là, où là, la carte de température suit tout de même les bras spiraux, mais toujours avec ce gradient centre-bord. Par contre, quelle que soit la galaxie qu'on a observée, on retrouve dans les cartes de densité tous les bras spiraux. Donc là aussi, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire, puisque tous les modèles qui avaient été faits jusqu'à présent ne prédisaient pas du tout ce genre de comportement. Alors la galaxie Messier 82, elle, donc, c'est une galaxie avec une formation d'étoiles extrêmement intense au milieu, et remplie de poussière. Vous avez une image du HST, avec, vous voyez, le disque de la galaxie. Puis vous voyez des sortes d'éjections de gaz ionisés, mais vous ne voyez pas du tout ce qui se passe au centre. Avec les moyens de Herschel, on peut faire des cartes. Et donc là, vous avez une carte dans l'ion d'oxygène plus. Donc ça vous donne, vous voyez ici les régions les moins émettrices, et puis vous voyez ici les régions les plus émettrices. Donc on voit le départ du jet que l'on voit à l'extérieur avec Herschel. Donc là, ça permet aussi de comprendre ce qui se passe dans ces régions de formation d'étoiles intenses avec des éjections de matière importantes, un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de galaxies très actives. Et avec donc aussi les spectrographes dans le SPY, on peut faire les spectres. Et là, par exemple, vous avez donc le spectre de la région centrale de Messier 82. Et vous voyez que c'est un spectre qui est dominé par des bandes d'émission du monoxyde de carbone. Et on retrouve un très grand nombre de raies d'émission, enfin de bandes d'émission, évidemment, avec ces... en mesurant les intensités de toutes ces bandes, on peut remonter à des paramètres physiques. Je vous montrerai un exemple plus tard pour comprendre quelle est la source d'excitation dans ces galaxies. Alors ça, c'est un autre exemple de galaxie qui est encore plus brillant que Messier 82, donc dans lequel on voit énormément de molécules, en dehors du monoxyde de carbone qui reste très apparent. On trouve beaucoup de vapeur d'eau, on trouve du CH, on trouve des choses qu'on ne trouve pas ou difficilement sur Terre, comme du OH+, ou du H2O+, de l'azote. Enfin bon, on trouve, il y a une très très grande variété de molécules et d'ions, ou de molécules ionisées, qui permettent donc de faire de la physique avec ça. Et ça, c'est par exemple un modèle qui permet... Ici, vous avez l'intensité de toutes les raies CO. Ici, vous avez le numéro de la raie. Et donc, vous avez ici l'intensité de chacune des raies dans une région qui est chauffée par des étoiles ou qui est chauffée par un trou noir au centre qui permet d'exciter une région beaucoup plus chaude que ce que peuvent faire des étoiles. Et donc, vous voyez qu'en mesurant les intensités de toutes ces raies de CO, en les comparant à ce type de modèle, vous êtes capable de dire si vous avez un chauffage par des étoiles ou par quelque chose de beaucoup plus énergétique, bon, essentiellement des trous noirs. Et donc ça permet d'avoir accès à une physique nouvelle, y compris sur des objets très lointains, ce qu'on ne pouvait absolument pas faire avant, puisqu'on n'avait pas accès à ces informations. Donc là, c'est aussi pour vous montrer un autre exemple où on combine à la fois des observations depuis les rayons X jusqu'au submillimétrique. Quand vous avez deux galaxies en interaction comme ça, vous avez des phénomènes qui sont compliqués. Et si vous regardez en rayons X, vous allez voir ici essentiellement une source. Et cette source, en fait, est probablement une région extrêmement chaude autour d'un trou noir dont vous voyez l'émission en X. Si vous regardez en UV, il y a trop de poussière ici et la poussière absorbe les UV et le visible, donc vous ne voyez plus rien. Par contre, vous commencez à voir les étoiles qui sont dans la galaxie spirale qui se trouve en dessous. Et puis vous allez vers l'infrarouge, donc à ce moment-là, on commence à voir réapparaître les poussières de la galaxie du haut, donc cette galaxie un peu bizarre. Et plus la luminosité de la galaxie normale ou pseudo-normale, en fait, disparaît. Et quand vous êtes revenu dans l'infrarouge lointain, ici, vous retrouvez une émission qui est entièrement dominée par la galaxie active et par la poussière chaude qui est chauffée par la région qui émet en X. Donc il faut arriver à combiner toutes ces informations pour vraiment arriver à comprendre ce qui se passe dans une galaxie. Et encore une fois, tant qu'on avait... que la partie avant Herschel, on avait la partie X, UV et jusqu'à l'infrarouge moyen, donc la dernière ligne était quasiment absente. Donc c'était très difficile de faire un bilan énergétique complet de ce qui se passait dans ces systèmes. Et là, maintenant, on a enfin les moyens de le faire et on n'est pas au bout complet de nos surprises. Alors, quand on va regarder des objets plus lointains, là, on ne voit plus que des points, évidemment, on ne peut plus faire ces analyses détaillées. Vous avez une galaxie qui a 5 milliards d'années, mais son diamètre angulaire est tellement petit que même avec des instruments comme Herschel, on ne voit plus que des points. Et donc un des problèmes, c'est de savoir si on voit les mêmes galaxies, si c'est les mêmes choses que ce qu'on voit localement ou pas. Alors, en fait, quand vous avez un point, c'est plus facile. On peut faire passer beaucoup de théories par un point. Ça, en général, c'est bien. Ça a un inconvénient, c'est que c'est aussi un bon moyen de se tromper. Alors quand vous en avez beaucoup, c'est pas mieux, parce que voilà ce qu'on obtient quand on regarde des champs profonds avec Herschel. Donc c'est une collection de points. Alors je dis que c'est pire, mais c'est pas tout à fait exact. Mais plus, c'était un exercice que j'avais fait pour m'amuser. Si vous regardez un détail de la Voie lactée, vous avez des endroits pas mal. Si vous projetez ce point à 10 milliards d'années, vous n'allez plus voir grand-chose. Vous allez voir simplement des luminosités intégrées, donc vous pouvez reconstituer la couleur en rouge, jaune, vert, bleu, exactement comme on fait. Et puis, à partir de ça, vous dites, c'est bien, si j'obtiens exactement les mêmes couleurs, j'ai la même chose. Alors voilà ce que vous pouvez avoir exactement avec les mêmes couleurs. Ce n'est pas forcément la même chose. Alors ça, c'est du rêve, parce qu'on ne peut pas le faire. On ne saura jamais aller observer le détail de galaxies. Bon, on a des redshifts, disons, lointains, des distances de l'ordre de entre 5 et 10 milliards d'années ou plus. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est on peut gagner au point de vue de l'information statistique. Alors là, le gain donné par Herschel est absolument prodigieux. Ce que vous avez à gauche, ce qu'on savait faire de mieux avant Herschel. Donc c'est une image du ciel profond qui avait été fait dans le millimétrique avec un instrument qui s'appelle Scuba à Hawaï. Donc en 20 nuits d'observation, il y avait 5 sources observées. C'était considéré comme une réussite. Le seul problème, c'est que personne ne savait ce que c'était que ces sources, parce que les barres d'erreur sur la position étaient trop grandes pour qu'on puisse les identifier avec des objets connus à d'autres longueurs d'onde. Alors voilà ce qu'on fait avec Herschel. En 16 heures, il y a 15 000 sources. Donc on change d'ordre de grandeur et on pallie à l'information spatiale sur le détail de chacun des objets par une information statistique. Évidemment, quand vous avez 15 000 sources, et encore ça c'est juste un des champs qu'on a observé, à l'heure actuelle il y a plusieurs centaines de milliers de galaxies qui ont été lointaines observées avec Herschel, on peut commencer à faire de la statistique et des interprétations fondées sur cette statistique. Alors pour vous, c'est tout de même assez compliqué à analyser. Voilà une image profonde obtenue à 250, 350 et 500 microns avec Herschel. Tous les points que vous voyez sont des points réels. Ce n'est pas du bruit. Donc tous ces points-là sont des galaxies lointaines à des distances variées allant de 5 milliards d'années à 10 milliards d'années. Alors on a un moyen, puisqu'en fait on a deux instruments sur Herschel et donc on peut déjà comparer les observations qu'on fait avec les deux instruments. Si on voit les mêmes objets, c'est qu'il y a ça donne une indication qu'on n'est pas en train de se fourvoyer complètement. Alors vous me prendrez sur parole, mais ce sont bien presque partout les mêmes objets que l'on voit dans les deux instruments. Et le type d'objets qu'on voit, c'est des objets assez différents de ceux qu'on observe localement. Donc vous avez ici une galaxie lointaine, il y a une dizaine de milliards d'années-lumière. Et vous avez ici donc la même chose, le flux lumineux en fonction de la longueur d'onde. La partie d'émission stellaire, et c'est la partie bleue, et la partie d'émission infrarouge du milieu interstellaire, et des poussières, c'est cette partie-là. Donc vous voyez, cette galaxie, si vous prenez le rapport entre l'émission des étoiles et l'émission des poussières, il y a un facteur 1000. C'est-à-dire que cette galaxie émet 1000 fois plus d'énergie dans l'infrarouge que dans le visible. Toute la lumière des étoiles sert à chauffer le gaz et chauffer les poussières. Donc ce sont des périodes extrêmement intenses de formation d'étoiles par rapport à ce que l'on observe dans notre environnement local. Alors, on est en train, bon, pour l'instant, on n'a pas encore complètement compris tous ces phénomènes, mais il y a un certain nombre de résultats qui permettent de comprendre ce qu'on voit. D'abord, si on regarde la manière dont évolue la lumière à 24 microns en fonction de la lumière dans l'infrarouge lointain, vous voyez que ça suit une droite relativement bien définie pendant un grand intervalle, disons jusqu'à quelque chose qui est de l'ordre notre galaxie serait ici, par exemple, à 10 puissance 11. Donc là, vous avez des galaxies qui sont 10 fois plus brillantes que notre galaxie. Et puis après, ça décroche. Les galaxies sont moins lumineuses dans l'infrarouge lointain par rapport à ce qu'on pourrait en déduire à 24 microns. Et ça, c'est lié à quelque chose qui semble lié au fait que toutes les galaxies passe par deux états de formation d'étoiles différentes. Alors ici, vous avez la masse de gaz dans une galaxie, et ici, vous avez la luminosité infrarouge, qui en fait est une mesure indirecte de la formation d'étoiles dans ces galaxies. Et donc, vous avez deux séquences de galaxies. Ici, des galaxies qui sont dans un mode calme. Notre galaxie serait par là, à peu près, quelque chose de ce genre-là. Et donc, et vous pouvez trouver des galaxies beaucoup plus brillantes, beaucoup plus lumineuses, mais qui sont dans ces périodes, dans ces instants calmes. Et puis vous avez une autre séquence, ici, qui sont les galaxies qui sont dans des phases intenses de formation d'étoiles. Donc ici, vous avez la galaxie Messier 82, dont je vous ai montré un exemple, le spectre tout à l'heure, et les images. Et puis vous avez des galaxies extrêmement lumineuses en infrarouge, et ici vous avez des galaxies qui sont extrêmement brillantes dans le submillimétrique et des quasars. Donc il y a une dichotomie entre la formation d'étoiles dans toutes ces galaxies, entre les phases, disons, peu denses, enfin calmes, et puis des phases intenses. C'est compliqué de savoir ce qui fait passer d'une galaxie d'un état dans l'autre, mais ce n'est probablement pas exactement les mêmes raisons qui font que ces galaxies-là sont dans un passe de là à là ou de là à là. Mais ce qui est assez curieux, c'est que ces objets-là se retrouvent sur des séquences qui sont bien définies. Un autre phénomène qui est aussi quelque chose qui est nouveau et qui montre qu'en fait, là, il y a un effet dans la formation d'étoiles, dans l'efficacité de la formation d'étoiles dans une galaxie qui est liée non pas à la masse totale, mais à la concentration, à la densité, en fait. Donc ici, vous avez la formation d'étoiles, mais cette fois-ci non plus en absolu comme sur l'image d'avant, mais par unité de surface. Donc en fait, vous avez c'est une mesure du rendement de la formation d'étoiles. Et ici, vous avez une unité qui est la densité de gaz, divisé par le temps dynamique. C'est-à-dire le temps dynamique, c'est le temps qu'il faut pour aller d'un bout à l'autre de la... Enfin, c'est une version d'un temps dynamique pour traverser la galaxie. Donc plus la galaxie, plus la région dans laquelle il y a du gaz est petite, plus le temps dynamique est petit, plus ce nombre augmente. Donc plus vous allez par là, plus vous allez vers des régions concentrées. Et évidemment, plus vous avez de gaz, plus vous allez aussi par là. Donc quand vous allez dans cette direction-là, c'est que vous avez plus de gaz dans des régions plus petites. Et vous voyez qu'il y a une très très bonne corrélation. C'est pratiquement 10 puissance 5 ordres de grandeur, enfin 5 ordres de grandeur, entre juste ces quantités-là, donc qui donnent la concentration, la quantité de gaz et l'efficacité de la formation d'étoiles. Pour des galaxies comme la nôtre, on se trouve ici à peu près, et vous avez ici les objets les plus importants. Donc, il semble qu'il y ait dans ces mécanismes d'évolution des galaxies à très grande distance des constantes qui font qu'il y a deux étapes, deux états, un calme, un intense de formation d'étoiles, et que ça soit lié à la concentration en gaz et à la compacité des régions de formation d'étoiles. Alors ça, on peut essayer de le comprendre en disant que lorsque vous avez des... C'est pour ça que beaucoup de galaxies en interaction sont très lumineuses en infrarouge, puisque les gaz sont comprimés par les collisions entre les deux galaxies. Donc ça crée des zones où le gaz est extrêmement dense et dans lesquelles peuvent se former des étoiles. Et c'est ce qui expliquerait cette séquence. Mais là aussi, je veux dire, il y a beaucoup de travail à faire maintenant pour arriver à faire des modèles cohérents qui permettent de reproduire ça sur d'aussi grandes échelles. Et juste pour terminer, un peu de propagande, puisque ça avait été une des premières observations qui avait été faites avec Herschel, et c'était la première démonstration qu'on était vraiment capable de voir des objets lointains, puisque c'était une détection de l'objet à l'époque le plus lointain connu, qui est un quasar à un redshift de 6,42, donc c'est un objet qui a un peu plus de 13 milliards d'années-lumière. Donc on est vraiment capable avec Herschel d'aller chercher les objets pratiquement les plus lointains connus dans l'univers.
C'était Laurent Vigroux, directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris, responsable scientifique de l'instrument SPIR sur Herschel. Sa communication, donnée au Bureau des longitudes en janvier 2011, portait sur la formation des étoiles et des galaxies vues par ce satellite sur orbite depuis le 14 mai 2009. Restez à l'écoute des retransmissions des conférences du Bureau des longitudes en cliquant sur les émissions de Canal Académie en colloque, rubrique Science. Et pour tout connaître des prochaines conférences, toutes ouvertes au public, connectez-vous au site du Bureau des longitudes www.bureau-des-longitudes.fr.